nous donner ni l'heure, ni le moment, ni le jour, mais on doit veiller d'ici là. Et puis oui, effectivement, c'est la suite des signes de son retour. On avait vu différents signes, dans plusieurs semaines passées, et je repensais justement à cette idée de retour du Seigneur, de l'enlèvement, disons, qui pour nous va être probablement une étape avant le retour, c'est au terme propre du retour. Je crois que l'Église va être enlevée avant le retour. Mais pourquoi est-ce qu'on se souvient des signes? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des signes? Pourquoi est-ce qu'il nous en a informé? Certainement qu'il veut qu'on en prenne instruction. On a de quoi attirer. Et régulièrement dans les Écritures, on nous exhorte à s'attacher à l'espérance que l'on a. Une espérance certainement de notre salut, un accomplissement final de notre salut, puis une espérance aussi de voir notre Sauveur face à face, de vivre avec lui face à face. Et quand on se souvient du retour du Seigneur, c'est une occasion justement de chérir notre espérance. Je lisais brièvement, je vous ramènerai plus de détails un autre soir sur cela. L'étude comme telle du retour du Seigneur a commencé à être prêchée tardivement dans l'histoire. Même Calvin a écrit plusieurs commentaires sur les livres de la Bible, sauf un, l'Apocalypse. Alors, il est venu plusieurs années après où est-ce qu'on a commencé à parler du retour du Seigneur. Et je pense que c'était, même en ce temps-là, au temps de Calvin, ça aurait dû être enseigné et prêché. Et à partir du premier siècle, mais plus ça va, plus on doit en parler. Je pense, plus j'étudie les signes, plus qu'on regarde dans nos Écritures et qu'on regarde notre époque, j'ai l'impression fortement qu'on est proche. On est proche. J'ai l'impression qu'on va vivre l'enlèvement de notre vivant, dépendamment à l'âge jusqu'à vous êtes rendu, mais il y a des chances qui sont grandes pour la majorité d'entre nous. Et de toute façon, si vous êtes sauvés, on a reçu le divin pardon. Si vous avez cette certitude-là que Dieu vous a pardonné, que vous mourrez maintenant, demain, et je peux mourir demain, là, ben on va rejoindre quand même notre Seigneur au moment de l'enlèvement. Il ne nous oubliera pas. En fait, c'est ce que les Écritures nous disent, même les morts premièrement, les vivants par la suite. Alors, si vous mourrez aujourd'hui ou demain, ben vous allez être là avant moi. Fait que pas une longueur d'avance de gros, là, mais quand même un petit peu. L'espérance que l'on a dans cette idée du retour du Seigneur. Jésus, il est venu nous sauver. Il est venu sur la terre, il y a 2000 ans, mais il nous a promis qu'un jour, il allait revenir. Et ce jour-là s'en vient. Ce jour-là, on y a hâte. Et quels sont les signes? Et là, je vous explique un petit peu quel est mon stress pour ce soir, parce que j'ai... Je voulais peut-être essayer de terminer les signes pour après ça peut-être regarder une étude un peu sur l'enlèvement, toujours dans le but de nous rappeler ce qui s'en vient vers le retour du Seigneur. Et je vais vous lire les signes en question. Ce que je crains, c'est qu'on n'aura pas le temps de tous les voir. Peut-être que ce que je vais faire, on va étudier quelques-uns en détail. Et puis les autres, je vous les donnerai avec quelques références. Vous pourrez les noter. De toute façon, c'est aussi enregistré. Puis si vous voulez faire l'étude un peu plus tard personnellement, de voir les textes, les signes qui s'en viennent, bien, ça sera à votre disposition. Je vais juste les lire, puis on va regarder du moins les trois premiers. Les persécutions religieuses et les temps difficiles est un autre signe. Et là, on est dans la suite des signes. Un autre signe que j'aimerais qu'on voit ce soir, la diffusion universelle de l'Évangile. Un troisième signe, Israël et les événements de la Palestine, c'est-à-dire ce qui se passe dans le territoire géographique d'Israël. Et ça, j'espère voir ces trois points-là ce soir. Ce qui me stresse un petit peu, c'est le dernier point qui est les événements de la Palestine. C'est probablement 8 soirées rien que pour ça. Mais en tout cas, bref, on essaiera quand même de regarder grosso modo. Un autre signe, les phénomènes dans le ciel. Un autre signe, le gouvernement universel, un autre signe qu'on pourrait voir lorsque les hommes vont dire paix et sûreté, et un autre signe qu'on pourrait voir, c'est l'augmentation de la connaissance, où on pourrait utiliser aussi la mondialisation. Je veux faire un mot de prière avant qu'on regarde peut-être un peu plus en détail les trois premiers signes que je viens de mentionner. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Tu prends soin de nous et tu nous as donné tes Écritures, Dieu. Tu veux qu'on les lise, tu veux qu'on apprenne à te connaître. Tu veux qu'on connaisse aussi, Seigneur, les choses que tu nous as laissées pour à l'avance de ce qui va précéder, Seigneur, ton retour. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, Dieu. On veut apprendre à connaître ce que tu as à nous dire. Mais par-dessus tout, Dieu, on veut comprendre qui tu es, ce qui s'en vient, pour qu'aujourd'hui, on puisse réformer nos voies. Pour qu'aujourd'hui, on puisse marcher dans la sainteté. Pour qu'aujourd'hui, on puisse marcher avec espérance, la tête haute, en attendant justement ta délivrance. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Je veux juste commencer avec une première lecture que j'avais déjà lue pour ceux qui sont à la bergerie de Sainte-Foy. Je veux juste lire, pour ceux qui sont à la bergerie de Sainte-Foy, j'ai lu ça mercredi dernier, acte 21, 10 à 14. Je veux juste le citer et juste utiliser une mini-expression de Paul qui va s'appliquer à nos vies puis à cette étude-là ce soir, justement, avec les signes qui s'en viennent. Acte 21, 10 à 14. Un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? » Qu'est-ce qu'il dit? Trois petits mots. « Je suis prêt. » Je suis prêt. Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Paul, il y avait un homme qui vient le rencontrer puis qui dit, il prend sa ceinture puis il dit, de la même façon que je me suis lié, la ceinture à qui appartient cette ceinture-là sera liée de la même façon et puis va avoir des temps difficiles à Jérusalem. Mais là, c'était évident pour tout le monde que c'était Paul. Mais quel était le cœur de Paul? Quelle était l'attitude de Paul face à quelque chose qui était inévitable? Il allait être lié, il allait être attaché. C'est quoi son attitude? Je suis prêt. Est-ce que nous, on est prêts à marcher avec ce même cœur, avec cette même attitude, quels que soient les signes, quels que soient le premier point qu'on voit ce soir, c'est les persécutions religieuses qui vont grandir, qui vont être croissantes, les persécutions sur les croyants qui vont être de plus en plus croissantes. Paul allait certainement être persécuté, allait avoir beaucoup de tribulations, allait être lié à Jérusalem, mais il allait y aller quand même et il allait avancer avec cette attitude-là de « je suis prêt ». J'aimerais vous inviter à tourner dans Luc 21. Les persécutions vont aller de façon croissante. Est-ce que vous avez l'impression d'être persécuté pour votre foi? Pas beaucoup, hein? Avez-vous l'impression que dans le monde, d'un point de vue général, les persécutions grandissent en ce qui concerne la foi? D'un point de vue mondial, il y a de plus en plus de persécutions pour la foi. On pourrait dire la foi, mais dans un sens large. Quiconque proclame croire en Dieu, c'est de plus en plus difficile d'affirmer la foi. Et il y a des guerres de foi, là, ça c'est une autre chose aussi. Là. Mais regardez, on va regarder ce que Jésus disait, Luc 21, 12 à 19. Quelqu'un qui voudrait lire ça? OK, Richard. OK. Merci, Richard. Ce que Jésus est en train de déclarer, c'est verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Plus ça va aller, plus il y aura des persécutions à cause de la foi. J'ai quelques questions pour vous. Pourquoi y aura-t-il cette persécution-là? Pourquoi est-ce que Dieu, l'autre question qui est parallèle que je posais, là, pourquoi est-ce que Dieu laisse faire ça? Pourquoi est-ce que les persécutions vont aller de façon croissante et que Dieu va laisser ça aller? Oui, je l'ai. Oui. Pour que vous soyez un témoignage. Quoi d'autre aussi? Quel verset que tu lisais? Que tu citais? Verset 13. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de quoi? À cause de mon nom. Il y aura des persécutions. Si on se proclame des disciples de Christ, on va être persécuté. Si Jésus a été crucifié à cause de ce qu'il annonçait et que moi je me proclame comme étant un disciple de Jésus, bien, c'est certain qu'il y aura des tribulations associées à Jésus. Puisque je veux suivre, je veux marcher avec lui. Cela vous arrivera, verset 13, pour que vous serviez comment? De témoignage. Comment est-ce que je peux servir de témoignage en cas de persécution? OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce qu'on agirait normalement? Oui. 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 OK. D'autres commentaires. Comment est-ce que je peux être? Comment est-ce que vous pouvez être un témoignage pour Dieu? Malgré les persécutions, qu'est-ce qui fait que ça va devenir aussi un témoignage? Oui. C'est ça? Oui, monsieur Norien. Oui. Alors, on a le désir de faire le bien, même si les gens veulent nous faire du mal, et on ne réplique pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal, certainement. Spontanément, me venait en tête, Christine, en parlant, 1 Pierre 3, je vais juste vous citer 1 Pierre 3, verset 13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, comment? Avec douceur et respect. Exactement. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de quoi? De l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que alors, c'est normal que les gouverneurs, les rois portent l'épée pour rendre justice pour le mal. Mais si on me persécute pour le bien que je fais, bien, si telle est la volonté de Dieu, bien, tant mieux. Et ce que Dieu me dit, ce que Jésus dit, c'est qu'on sera un témoignage aussi, même à travers les persécutions. Dieu va nous utiliser pour ça. Dans le verset, si on revient dans Luc, ça dit, verset 14, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. » Pourquoi? Oh, est-ce que c'est pour commenter ou pour une question? Oui. Oui. Pierre n'était pas prêt à ce moment-là à être un témoignage de persécution. Oui. Oui, il était un témoignage de force humaine. C'est ça, c'est ça. Et Pierre, par la suite, ce que Jésus lui a dit, vous vous souvenez quand que Jésus, après la résurrection, est venu le rencontrer sur la plage, il a dit, Pierre, que t'importe, toi, suis-moi. Tu vas perdre ta liberté, tu vas souffrir, tu seras lié, et là, tu vas être un témoignage pour moi. Oublie ton épée, puis maintenant, fais le chemin que par lequel je veux que tu passes. Oui, tu vas être persécuté. Dieu veut qu'on soit des témoignages. Et ça se peut que ça soit dans la persécution. Ça se peut que ce soit dans la persécution, dans les tribulations, mais c'est un des signes de la fin des temps. Plus le temps avance, plus les gens, on parlait d'apostasie, hein, plus les gens, de façon générale, vont refuser l'existence de Dieu, vont refuser le concept de Dieu, et tous ceux qui vont s'affirmer pour prendre position pour Dieu, mais seront persécutés. Alors les deux vont ensemble. Verset 14, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. » Pourquoi? Verset 15, vous donnerez des paroles, une sagesse, telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. On va revenir sur ça tantôt. Mais qui seront les persécuteurs des fidèles? Jésus, il fait une énumération, là. Quels sont les persécuteurs que Jésus est en train d'énumérer? Quels sont les persécuteurs des fidèles? Ouais. Des autorités, mais pas juste des autorités, répète-le, Serge. Des proches, la famille, ça peut devenir un temps particulièrement difficile parce qu'en plus, c'est des gens qu'on aime. Parce qu'en plus, c'est des gens qu'on aimerait venir voir au Seigneur aussi. Et c'est ces gens-là qui nous persécutent. C'est ce que Jésus est en train d'annoncer. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, ils vous feront mourir, plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous. À cause de quoi? À cause de mon nom. Mais quelle promesse que Dieu nous fait? Qu'est-ce qu'il nous demande dans notre persévérance? Quand on persévère, parce que la persécution va demander de la persévérance. Et dans notre persévérance, qu'est-ce que Dieu nous promet? Son contrôle. Ouais. Sa souveraineté, sur la protection, et qu'est-ce que tu as dit, Jacinthe? Et ça explique le contrôle absolu. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Jean-Pierre, René? Ça va être plus facile à garder le contrôle comme ça avec lui. Ouais. Non, mais effectivement, Dieu est en train de nous promettre qu'il y a un contrôle absolu, un contrôle à un point tel qu'il le sait lequel des cheveux qui est en train de tomber et qu'est-ce qui va arriver. On va lire dans Apocalypse. Je vous invite à tourner dans Apocalypse 6. Oui, je lis. Ouais. 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 C'est ça, c'est pour ça que j'insiste sur la souveraineté de Dieu, que bien que humainement sur la terre on peut être persécuté ou dans la tribulation, Dieu n'a pas perdu le contrôle, même si on est lié. Dieu n'est pas lié. Et oui, effectivement, on peut mourir physiquement, mais dans sa souveraineté, nos vies sont dans ses mains. Même si on perd notre vie physique, si Dieu permet que je sois mort à cause de ma foi, bien qu'il en soit ainsi. Et cette idée de ne pas perdre un seul cheveu, c'est l'idée que Dieu connaît toutes choses, que Dieu contrôle toutes choses. Apocalypse 6. On va lire les versets 9 à 11. On va juste les lire qui vont compléter un peu ce qui vient d'être lu, mais qui est dans l'Apocalypse chapitre 6, qui est un peu l'image de ce qui doit s'en venir. Jésus fait l'annonce, puis Apocalypse est un peu comme un constat de ce qui se passe, de ce que Jean voit déjà à l'avenir. Un volontaire qui veut lire les versets 9 à 11. Danny, s'il te plaît. OK. Qu'est-ce qui était prévu dans le plan de Dieu, même pour ceux qui étaient des fidèles? Qu'ils allaient mourir pour la foi, qu'ils allaient être persécutés jusqu'à la mort. Quand ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. C'est quelque chose quand on pense à ça. Qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et puis verset 11, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Attendez un peu, c'est pas fini. Il y en a d'autres qui doivent arriver aussi, qui vont arriver à cause de la persécution, qui vont arriver. Il y a eu autrefois de terribles persécutions, si on faisait l'histoire à partir de la résurrection jusqu'à nos jours, il y a eu des périodes terribles de persécutions religieuses au 1er siècle, au Moyen Âge, etc. Mais après la grande Révolution française, la proclamation des droits de l'homme, la liberté de conscience, qui aurait cru que finalement la persécution finirait que par réapparaître. Bien qu'il y ait la liberté des droits de l'homme, bien qu'il y ait toutes sortes de choses qui soient dites, un jour ou l'autre va arriver où on va être persécuté pour notre foi. Allez seulement dire publiquement que vous croyez en Dieu. On n'est pas persécuté présentement. Mais allez dire pour le fun à la radio, par exemple, que vous croyez en Dieu et en Jésus. Et on s'attend à une levée de boucliers sur le concept même de l'existence de Dieu que les gens ne voudront pas croire. Est-ce que vous avez entendu parler? Je ne me souviens pas si j'en ai parlé. Vas-y, René. Oui, exactement. Oui. Au cégep. C'est ça. Ouais. De l'eau vive, ouais. Ouais, c'était plein à craquer. Ouais. Ouais. Et s'il y avait eu une conférence évolutionniste, il n'y aurait pas personne qui aurait rien dit. Et là, tout d'un coup, on fait une conférence créationniste au cégep de Sherbrooke. Et là, tout le monde se lève contre. Et on fait ça, comme tu dis, René, finalement, à l'église L'eau vive. Et puis, ce que j'ai entendu quand même, ce qui était bien, les journalistes sont venus, les gens qui sont venus pour écouter, c'est quoi ça qui soulève autant de controverses? Mais c'est de notre temps, là, c'est là un mois là, à peu près, ou deux max. Là. Fait que les gens refusent que le créationnisme soit enseigné, qu'il soit du moins même vu comme quelque chose de possible. Ça démontre à quel point la marée d'intolérance et de haine contre Dieu soulève à nouveau notre monde. De plus en plus, il va y avoir de persécutions. On n'en vit pas présentement. Peut-être un jour, on en vivra. Mais que Dieu nous accompagne dans le témoignage qu'on a à rendre. Tournez avec moi dans Matthieu 24, si vous y êtes déjà. Là. Si vous n'y êtes pas déjà. Un autre signe, on vient de voir les persécutions croissantes. Et j'aurais pu citer aussi, là je ne l'ai pas fait, mais 2 Timothée 3, 1 à 5, qui parle qu'à la fin des temps, justement, les gens vont refuser la saine doctrine, les enfants, bref, ça va aller de mal en pis. Ça va être de pire en pire. Et Matthieu 24, 14, qui est le deuxième signe de la fin des temps, un signe positif, un signe qui nous fait du bien, qui nous fait respirer, pour lequel on prie puis qu'on veut. On veut pas nécessairement de la persécution, hein, mais pour le deuxième signe qu'on voit ce soir, la diffusion universelle de l'Évangile. Un signe qui, certainement, on est content qu'il s'accomplisse. Matthieu 24, 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin. La bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Et là, on était vraiment au tout début, là. Jésus, là, il se préparait à aller dire après ça, après la résurrection, commence par la Judée, après Jérusalem, ainsi de suite, là, jusqu'aux extrémités de la terre. On était vraiment aux prémices. Et puis là, présentement, au point où ce qu'on est, bon, on est loin, après ce temps-là, là, un signe réjouissant. Qu'est-ce que ça démontre dans les intentions de Dieu? Qu'est-ce que cela démontre dans les intentions de Dieu? Il va y avoir une apostasie de plus en plus croissante, une persécution sur les gens qui s'affirment croyants. Puis, il va y avoir, malgré tout cela, la diffusion de l'Évangile sur le monde entier. Qu'est-ce que ça montre dans les intentions de Dieu? Oui, Danny. Ouais. 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 Ouais, certainement. Dieu est patient et il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils se repentent, et il va continuer de prêcher l'Évangile. Oui, Jacinthe, puis après ça, Jean-Pierre. Ouais. Dieu continue d'agir même en temps d'extrême difficulté. Ouais. Ouais. Oui, Jean-Pierre. Ouais. Ouais. On va avoir perdu beaucoup de force, certainement. Certainement. Ouais. Non. Ouais, peut-être pour la tribulation. Puis pour ce qui est du moins, on a ce privilège-là quand même maintenant dans notre société, dans notre Québec et le Canada, le privilège quand même de pouvoir parler de la parole de Dieu. Il n'y a pas personne qui est persécuté parce qu'on peut parler de la parole de Dieu. Profitons-en pendant que ça passe, là. Dieu n'abandonne jamais complètement la terre. Dieu n'abandonne jamais complètement l'homme. Et ce n'est pas son intention. La Bible, traduite en l'an 1500, a été traduite en 14 langues seulement à ce moment-là, peu après. Et puis, il est maintenant dans ses parties principales en plus de 1800 langues, accessibles à 98% de la population du globe. Ça l'a avancé. Ça l'a progressé beaucoup. Accessible dans ses parties, dans ses plus grandes parties, à 98% de la population. En 86, la Bible complète, 1986, était traduite en 286 langues, d'une façon complète. Le Nouveau Testament, en 595 autres langues de plus, et 927 autres langues par des portions diverses. Justement, on entendait l'autre fois, ben voilà plusieurs mois, Simon, qui travaille avec Wycliffe, là, et qui justement avait traduit Ruth, et une communauté avec une langue, là, j'oublie la langue en question, là, mais c'est ça pour une petite communauté. Alors, on a des gens qui travaillent justement pour répandre la parole de Dieu. Alors ça, c'est un des signes. De plus en plus, l'Évangile est répandu sur le globe. OK, on va faire notre troisième point qui peut prendre plus de temps un petit peu. J'espère que vous avez pris du café avant de venir. Matthieu 24. Chapitre Matthieu 24, on va lire les versets 15 et 16. Quelqu'un qui veut lire ça? Oui, René. OK. Il y a des signes très particuliers qui appartiennent à Israël. Israël, pas juste le peuple, mais Israël, la géographie, là, le pays comme tel. Et dans les signes de la fin des temps, il y a des choses qu'on peut et qu'on doit constater aussi de ce qui arrive avec Israël. Si on recule de à peu près 60 ans, un peu plus, ou 70 ans, Israël n'était pas un pays qui existait à ce temps-là encore. La création, bien, si on recule de plusieurs milliers d'années, oui, mais il y a eu une période de temps qu'Israël n'avait pas de territoire. Et maintenant, Israël en a un territoire. Je ne vais pas aller trop vite sur ça, mais le 9/10 des prophéties concernant Israël se sont déjà accomplies. Et il reste particulièrement 7 prophéties qui doivent encore s'accomplir. Et c'est ces sept prophéties-là que j'aimerais qu'on regarde ce soir. Là, ça va faire 7. Là, comme je dis, je ne sais pas si vous allez toutes les noter, mais il y a des choses qui sont intéressantes pour notre intelligence et qu'on peut prendre en note puis regarder plus tard. La première qu'on voit en ce qui concerne des signes pour Israël, c'est le territoire d'Israël englobera tous les territoires se trouvant entre l'Euphrate et le Nil. C'est une prophétie qui doit arriver, qui va arriver éventuellement. Un volontaire, je vais donner quelques textes ici et là, si on peut aller assez rapidement, ça va nous permettre de passer peut-être au travers. Genèse 15, verset 18. Quelqu'un qui veut lire ça? OK, Serge. Alors, il y avait une prophétie qui avait été donnée à Abraham à ce temps-là et qui va être à accomplir encore d'un territoire qui va, ce que les Écritures nous disent, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Il y a un territoire qui n'a pas été occupé encore, qui est encore à venir. Une deuxième prophétie, la Bible annonce catégoriquement ou annonce la construction du temple. Qu'est-ce qui reste présentement du temple? Hein? Il reste un mur, le mur des lamentations. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le mur des lamentations? Parce que les gens vont se lamenter dessus. Ils vont porter leurs prières là, qu'ils mettent sur des papiers, ils les roulent, puis ils rentrent ça d'une craque sur le mur des lamentations. C'est un pan de mur qui reste, mais ce que les Écritures nous annoncent, c'est qu'il y aura un temple qui sera refait et qui sera utilisé même aussi pendant cette période de tribulation. Un volontaire qui veut lire Apocalypse 11, les versets 1 et 2, s'il vous plaît. Lise ça. OK. Je vous lis 2 Thessaloniciens 2:3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, le temple sera là dans la période de tribulation et sera efficace. J'ai entendu dernièrement, et je ne sais pas si c'est vrai, des gens qui disent qu'il y a des plans déjà de fait pour le temple, qui sont prêts déjà à reconstruire. Qu'est-ce que ça vous éveille comme sentiment si vous entendez des plans du temple qui sont déjà prêts à ériger un temple? Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que vous arrêtez tout projet que vous avez sur la terre présentement? On lève la tête. Oui, absolument. On continue d'avancer, on continue de vouloir proclamer l'Évangile aussi. Et certainement qu'on, ben je ne sais pas si on va le voir, si on va en entendre parler vraiment du temple qui sera reconstruit, mais c'est quelque chose qui doit arriver, le temple qui va être reconstruit. Alors, on parle du territoire, on parle du temple qui sera reconstruit. Troisième signe en ce qui concerne Israël, les Juifs dispersés dans le monde retourneront un jour en Israël. Est-ce que ça a déjà commencé? Oui, ça a déjà commencé. Ézéchiel, je vais vous lire Ézéchiel 39, 27 et 28. « Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. » Ésaïe 34, 16. « Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche leur donnée, c'est son esprit qui les rassemblera. » Qu'est-ce qui est important dans le texte qui vient d'être mentionné sur le retour des Juifs à Israël? Un élément clé qui doit arriver. Oui, René? Oui. C'est ça. Oui. Oui. C'est ça. Alors, c'est pas uniquement un retour terrestre, physique, certainement un élément important à considérer, mais un retour à la foi aussi, un retour à se tourner vers Dieu et à suivre maintenant Dieu. Il y a 13 millions de Juifs dans le monde, 5 millions en Israël, 5 millions aux États-Unis, puis 3 millions dans le reste du monde. Puis aujourd'hui, il y a plus de Juifs à New York qu'il y en a à Jérusalem. Alors, tout n'est pas fini encore. Il y a beaucoup de Juifs à ramener en Israël, mais particulièrement aussi à la foi. Je vais juste vous citer quelques éléments de quelques faits qui se sont passés. Le 14 mai 48, se fait en effet la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël par David Ben Gourion. Depuis cette date historique, 4 guerres ont affecté le pays. En 48, en 56, en 67, et puis en 73. Et puis, par ces 4 fois-là, au grand étonnement des nations, les troupes de l'État hébreu purent faire face à l'ennemi, à les repousser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre de 6 jours? C'est des exploits tout à fait incroyables quand on pense que l'État d'Israël avait à peine 19 ans, 20 ans d'existence, qui était dans un océan, dans la Ligue, qui était au plein milieu de la Ligue arabe, et qui, en 6 jours, leur ont donné une râtelée, on pourrait quasiment dire ça comme ça. Au Skamani, il y avait un blocage. Je vais juste vous résumer rapidement. Là, il y avait un blocage par la Ligue arabe sur pour les navires. Là. Et puis, Israël a décidé d'attaquer rapidement. Le premier soir, il avait détruit la moitié de l'aviation de la Ligue arabe, je pense égyptienne. Et puis, 6 jours après, la Ligue arabe était anéantie. Là. J'ai les différents pays que je pourrais vous nommer, là. Mais c'est l'idée que le peuple, l'État hébreu, on croit et on peut voir qu'il y a une main souveraine au-dessus d'eux qui est en train de diriger tout cela. Et humainement, on pourrait regarder ça, puis on comprend pas nécessairement pourquoi est-ce que l'État hébreu continue de survivre, comment est-ce qu'il fait pour être si fort. Mais au-delà de cette... Et c'est là, à ce moment-là, c'est quelque chose d'important, juste dire que c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont pris la bande de Gaza, qu'on entend parler encore un peu, et puis de Jérusalem aussi, parce que les prophéties annonçaient que les Juifs allaient reprendre Jérusalem, et Jérusalem est retombée sous le contrôle des Juifs à ce temps-là, après la guerre de 6 jours, et c'est devenu la capitale d'Israël, finalement, à ce point-là. Et ça, c'était des prophéties qui annonçaient que la capitale, elle est retombée entre les mains des Juifs. Et ça, c'est vrai présentement. Alors, c'est ça. Il y a des choses qui se passent en Israël, d'un point de vue peut-être physique présentement, qu'on peut regarder et puis qu'on peut imaginer voir la main de Dieu qui est en train de se produire quelque chose. Mais il y a un cœur aussi qui doit se tourner vers l'Éternel. Les Juifs doivent regarder celui qu'ils ont percé et revenir à la foi. Et il me reste 4 autres prophéties en ce qui concerne Israël. Je pense que je vais les énumérer en vous donnant quelques textes, et puis on continuera un dimanche soir avec d'autres signes. Mais le retour des 12 tribus. Présentement, on parle d'une tribu particulièrement. C'est des Juifs, c'est des gens qui vont s'associer dans un sens à la tribu de Juda. Mais Apocalypse 7, 4 et 8, on parle des 144 000, vous vous souvenez? Et là, si on lisait le texte, mais il y en aura 12 000 de chaque tribu qui seront donnés. Si on lisait dans Ézéchiel 37, 15 à 19, on voit justement qu'il semble y avoir une fusion des tribus pour devenir une seule. Puis dans le futur, ben ils vont redevenir les 12 tribus. Une autre prophétie qui doit arriver, la mère morte qui va redonner, qui va revivre dans un sens. Après Sodome et Gomorre, quand il y a eu le feu qui est tombé du ciel, il y a eu un changement sûrement important près de la mer morte. Et la mer, on l'appelle la mer morte parce qu'il n'y a rien qui vit, hein, il y a juste du ciel dedans presque. Et puis Ézéchiel, si on lisait Ézéchiel 47, 8 à 9, mais on voit que finalement les sources d'eau saine vont remplir et puis les poissons vont revivre, les arbres vont repousser à côté. Alors la vie va reprendre dans la mer morte. C'est une prophétie qui s'en vient. Ézéchiel 47, 8 et 9. Une sixième prophétie qui atteint Israël, ben les nations, et celle-là vous la connaissez parce qu'elle concerne particulièrement l'eschatologie, ben il y a une grande bataille qui atteint Israël. Et cette grande bataille-là est tout près du retour d'Israël à leur cœur vers Dieu, parce que c'est ça qui va être un peu l'élément déclencheur, que Israël va se sentir tellement persécuté, tellement écrasé, que là, finalement, ils vont lever les yeux et puis ils vont crier à Dieu. Est-ce que tu me dis quelque chose, Gaétan? J'ai manqué de quoi? OK. Apocalypse, justement, qu'on voit la bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon qui va avoir lieu dans cette vallée. Apocalypse 16, verset 14. Une dernière prophétie. Jésus sera reconnu comme Messie par Israël. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Le peuple de Dieu qui, dans son endurcissement, va se retourner vers l'Éternel, vers Jésus aussi, qui vont reconnaître. Je vais vous citer, on va terminer avec ce texte-là. Zacharie 12, 10. Tournez avec moi dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Romains 11, 26 dit, « Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Zacharie 12, 10, quelqu'un qui voudrait lire? Danny? OK. C'est intéressante la prophétie. Hein? Quel élément précis qu'on entend, qui est donné par le prophète en ce qui concerne le Sauveur qui s'en vient? Quel élément précis? Ils vont tourner les regards vers qui? Celui qu'ils ont percé. Et c'est intéressant. C'est intéressant que déjà, avant que Jésus soit crucifié, bien, c'est annoncé par le prophète que Dieu allait répandre sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et puis ils vont tourner les regards vers moi, vers celui qu'ils ont percé. Et on parlait tantôt de la bataille d'Armageddon, mais le peuple, les Juifs, vont se tourner vers le ciel, puis ils vont crier à Jésus. Ils vont supplier à Jésus. Savez-vous ce qui va arriver après ça? Il va revenir. C'est là qu'il va revenir. Jésus va revenir. Au moment qu'ils vont crier à lui. On termine avec ces sept prophéties qui sont données en ce qui concerne Israël. Dans les trois signes qu'on a vus, les persécutions croissantes, l'évangile qui grandit et aussi des éléments clés de prophéties qui s'accomplissent sur Israël, dont les sept qu'on vient de voir. Et puis, redire les signes qu'on verra pas en détail, mais les phénomènes dans le ciel, Matthieu 24, 29 à 30, un gouvernement universel, Apocalypse 17, 12 à 13, verset 17. Les gens vont crier paix et sûreté. Ils vont être en sûreté, ils vont être en paix. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3, un autre élément clé de la fin. Et une augmentation de la connaissance, Daniel 12, verset 4. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? J'espère que c'est pas un point tel intellectuel que ça touche pas nécessairement notre cœur. J'espère que ça stimule notre marche avec Dieu. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Ce qu'on vient de voir. Oui, Richard. un paradoxe que on... Ouais. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu as dit. Il semble qu'il reste beaucoup de choses à venir. J'ai l'impression que plus ça va, plus les événements vont se bousculer, par exemple. Oui, Gaétan. Oui. Oui. Non. Oui. Non. C'est ça, absolument. C'est ça. Et j'ai pas fait un tableau eschatologique de quand est-ce que les choses vont arriver. Il y a des choses sur Israël qui doivent arriver, mais exactement. Il y a des choses qu'on ne vivra pas. Il y en a d'autres qu'on va vivre. Et sur ce qu'on va vivre ou qu'on ne vivra pas, ben on pourra peut-être regarder un peu plus en détail ce que les textes disent. Et particulièrement dans la période de tribulation, il va en arriver beaucoup de signes. Ce qui va arriver, ce que j'ai cité sur les prophéties d'Israël, il y a plusieurs qui vont arriver au temps dans la dernière semaine de Daniel. Et est-ce qu'on va y être? Est-ce qu'on y sera pas? Est-ce qu'on va y être à moitié? Oui, René, tu avais levé la main. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça, avant la grande tribulation, effectivement, ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et. Oui. Oui. Et le commencement des douleurs, hein, j'ai accroché ce mot-là parce que ma femme a accouché dernièrement. Et puis c'est vraiment intéressant parce que le soir, c'était quoi? C'était quelle journée? Un mercredi? Un mardi. Et là, un mardi en après-midi, il commence à avoir des contractions. Et là, on savait que ça allait arriver probablement en soirée. Ça sentait, là. On s'en doutait pas mal. On commençait à placer les choses. Et là, on n'avait pas eu le temps de prendre des photos de Julie enceinte. Et là, on a commencé à prendre des photos en soirée. Mais là, c'était régulier, là. Le commencement des douleurs était là, mais on était encore capable de prendre des photos. Je vous les montrerai peut-être les photos sans que Julie soit là à un moment donné, là. Mais c'est drôle parce qu'elle essaie de sourire. Parce qu'elle a mal. Elle a comme de la souffrance d'en face, mais elle essaie de sourire. Mais c'est vraiment les souffrances qui sont là, le commencement des douleurs, là. Et quand on est arrivé à l'hôpital, ça s'intensifiait. Mais il y a vraiment un travail marqué, si je peux prendre cet exemple-là qu'on voit, là. Un travail que je sais pas si c'est un travail actif, que là, on le sait que là, c'est parti, là, pour de vrai, là. Et quand ils font l'admission à l'hôpital, ça a pris, mettons, à 11h, à 10h30, mettons, là, ça commençait pour vrai, là. Et les contractions étaient fortes. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. Et d'ailleurs, il y a un travail vraiment actif. Alors, est-ce que le travail actif du avant le retour du Seigneur, c'est vraiment la période de tribulation ou la grande tribulation? Il y a des choses qu'on va vivre certainement. Puis un travail final qui va certainement donner beaucoup de douleur, mais qui va amener aussi notre Seigneur à reposer les pieds sur la terre, et avec l'espérance que j'ai aussi qu'on sera avec lui, avec son retour. On va redescendre avec lui, parce que Dieu sera venu nous chercher aussi avant. Il sera venu chercher son Église. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. C'est bon, Seigneur, quand on chérit cette espérance-là que l'on a de ton retour, on a hâte que tu reviennes, on a hâte que tu viennes rétablir ta justice. Dieu, plusieurs de nos frères et sœurs vont être persécutés, vont souffrir pour leur foi. Et je ne sais pas, Dieu, si nous, on va le souffrir, mais pour l'instant, Dieu, c'est pour ces frères et sœurs qui sont dans le monde, on te prie pour eux, Seigneur, fortifie leur foi, accompagne-les, Seigneur, utilise-les pour être un témoignage pour ton nom. Et aussi, Seigneur, donne-nous cette attitude, cette disposition de cœur et de tête pour être capable de dire comme Paul, « Je suis prêt. » Si quelqu'un vient nous annoncer qu'on sera lié, qu'on est prêt à te suivre, Dieu, quelle que soit la tribulation, l'épreuve qui nous attend. Et nous aussi, on veut s'engager avec ce signe de diffusion de la parole, de l'Évangile. On veut être tes témoins à cause de ton nom. On veut annoncer, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies, même si les gens de plus en plus te rejettent. On lève les yeux vers toi, Dieu. On a hâte que tu viennes nous chercher. On a hâte de redescendre avec toi aussi pour que tu puisses justement établir ton royaume sur la terre. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.